France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, Socrate, l'homme sage, le philosophe, l'infatigable provocateur, en quête de clarté, de vérité, quoi qu'il en coûte, à lui-même et à ses interlocuteurs, condamné à mort, pour impiété, par un tribunal populaire à Athènes. Puis Socrate, acceptant la sentence et se donnant la mort en buvant dans sa prison un poison tiré de la ciguë. Mais en fait, l'affaire n'est pas close. En tout cas, pas pour nous. Un grand mystère entoure ce procès, cette condamnation. Et quel sens donner à cette mort acceptée? On dit souvent que Socrate aurait pu s'enfuir de sa prison. La garde n'était pas sévère. Et il avait tellement d'amis bien placés dans la société athénienne. Pourquoi ce respect d'une décision de justice qu'il disait injuste?
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
L'affaire n'est pas claire. Car nous ne savons pas ce qu'ont dit ses accusateurs. Et nous n'avons pas les mots qu'a prononcé Socrate pour se défendre. Mots qui n'ont pas convaincu la majorité des 500 ou 501 citoyens qui siégeaient dans le jury. Nous savons que les débats ont été houleux et qu'il a manqué 30 voix à Socrate pour qu'il soit acquitté. Nous pouvons lire deux textes complets qui se présentent comme la plaidoirie de Socrate. Ils ont été écrits par deux disciples proches de Socrate, Xénophon et Platon. Mais ces deux textes reflètent plutôt l'interprétation que ces deux auteurs avaient du procès que la réalité de ce qui s'est dit. Et ils ont été écrits bien après l'événement. On est dans le flou. Revenons à l'acte d'accusation, tel qu'il a été déposé auprès du magistrat en charge des questions religieuses. L'archon III, non pas un roi, mais un magistrat désigné pour une année. Par bonheur, nous avons ce texte.
Voici la plainte déposée sous serment par Mélétos, fils de Mélétos, d'Udème de Pitée, contre Socrate, fils de Sophronisque, d'Udème d'Allopéquée.
Socrate enfreint la loi parce qu'il ne reconnaît pas les dieux que reconnaît la cité et qu'il introduit d'autres divinités nouvelles. Et il enfreint la loi aussi parce qu'il corrompt la jeunesse. Peine requise, la mort.
Socrate est accusé d'impiété pour trois raisons. 1. Socrate ne respecte pas, n'honore pas les dieux de la cité. 2. Il introduit de nouveaux dieux. 3. Il corrompt la jeunesse. Et pour toutes ces raisons, il mérite donc la mort. Ce texte est brutal, tranchant, mais il est obscur. Qu'est-ce que ça veut dire que Socrate ne reconnaît pas les dieux que la cité reconnaît, qu'il ne respecte pas les usages religieux et qu'il voit les dieux à sa manière, autrement, ou qu'il ne croit pas du tout aux dieux, à leur existence? Et qu'est-ce que ça veut dire introduire à Athènes des dieux, des êtres divins nouveaux? D'après ce qu'on peut reconstituer, la troisième accusation, Socrate corrompt la jeunesse, est la forme que prend, selon l'accusateur, l'impiété supposée de Socrate. Il aurait convaincu les jeunes gens qu'il rassemblait de ne pas respecter les normes religieuses fondamentales dans la vie de la cité. Or, dans la cité, la religion était partout. C'est elle, par ses rites, sa régularité, sa visibilité, qui tenait la société, qui lui donnait sa cohérence. La deuxième accusation, Socrate introduit à Athènes des divinités nouvelles et de premier abord surprenantes. Les Athéniens étaient en fait très accueillants en question divinité. Il n'y avait pas de numerus clausus pour les dieux. On laissait volontiers entrer des divinités étrangères qui pouvaient être populaires.
Paulin Ismar, historien.
Rien ne permet de dire que Socrate a voulu introduire de nouvelles divinités. Et par ailleurs, ce qui est très compliqué dans l'affaire, c'est que régulièrement, le polythéisme ancien, le polythéisme athénien, mais aussi le polythéisme romain, était intégrateur. Et de très nombreux dieux arrivaient régulièrement à Athènes, et même à l'initiative de certains individus, sans même que les autorités de la cité le demandent ou le réclament. Et quelques années avant le procès de Socrate, on voit une déesse thrace qui s'appelle Bendis, le dieu Asclépios qui vient d'Épidaure, être intégré à la religion civique athénienne. Donc on a beaucoup de mal à comprendre en quoi, de toute façon, introduire une nouvelle divinité posait problème.
Athènes, tournée vers la mer, était en relation étroite avec beaucoup de peuples des alentours ou lointains, des étrangers installés dans la ville ou venant y faire du commerce, et aussi des esclaves maintenaient à Athènes leur culte d'origine et les diffusaient. Et ces cultes étaient acceptés sous certaines conditions. Il fallait qu'ils soient validés par une autorité politique. S'ils n'avaient pas cette validation, ils étaient violemment réprimés. Ces cultes étrangers pouvaient susciter des grognements, car ils étaient souvent liés au milieu populaire, à des formes festives, bruyantes et démonstratives de religion, avec des cortèges dans les rues, notamment celle du Pirée, le port d'Athènes. En plus, il y avait autour de ces dieux venus de l'étranger des cérémonies d'initiation qui pouvaient susciter la réprobation, car on disait que s'y passaient des choses louches. Nous avons, pour ces dieux immigrés, les bribes d'une triste histoire, celle d'une prêtresse nommée Ninos. Elle n'était pas étrangère, elle venait de Béotie. Ce qui lui était reproché, avoir, sans autorisation, introduit une divinité étrangère à Athènes et avoir soumis des jeunes gens à la débauche lors de scènes d'initiation avec des philtres d'amour. Elle fut jugée et exécutée. Un témoignage très tardif nous indique la loi qui aurait été utilisée contre elle.
Les Athéniens mirent à mort la prêtresse Ninos parce qu'un citoyen l'accusa d'initier à des dieux étrangers. La loi chez les Athéniens défendait une pareille chose et la peine établie contre ceux qui introduisaient une divinité étrangère était la mort.
Selon un autre témoignage, les juges auraient très mal pris qu'avec son culte étranger et douteux, Ninos ait voulu se moquer des vraies cérémonies d'initiation bien ancrées à Athènes dans ce qui s'appelait les mystères, des rituels à la fois officiels et secrets. Mais un coup de théâtre a eu lieu. Après la mort de la pauvre Ninos, les Athéniens, pour une raison qu'on ne connaît pas, ont consulté un oracle. Ils lui ont demandé si le dieu qu'honorait Ninos devait être ou non accueilli. L'oracle répondit aux Athéniens que ce dieu étranger devait être honoré à Athènes. Cela veut dire qu'Athènes accueillait des dieux venus de l'extérieur, mais sous certaines conditions. Il fallait qu'une autorisation officielle soit délivrée. Ici, c'est un dieu qui la donne. La ville lui obéit et change d'avis. Le culte qu'observait Ninos était en fait, selon l'oracle, tout à fait légitime. Il a pu être repris.
Au début, considérant que les pratiques auxquelles Ninos se livrait constituaient un outrage contre les vrais mystères, ils mirent la prêtresse à mort. Ensuite, l'oracle ayant prescrit d'autoriser ses cultes, ils permirent que la mère d'Échine pratique ses initiations.
La mère d'Échine, qui est-ce ? C'est toute une histoire. Échine était un orateur très connu. C'était le grand adversaire de Démosthène, qui a bataillé contre lui. Démosthène voulait disqualifier ce rival, comme on aimait le faire à l'époque et maintenant, en montrant que dès sa naissance, il ne valait rien. Démosthène a plusieurs fois sorti comme attaque contre Échine les pratiques religieuses peu recommandables de sa mère, les rites absurdes auxquels elle se livrait en mettant son fils à contribution. Démosthène, lors de procès ou de débats à l'Assemblée, pensait ainsi enfoncer son adversaire. Il savait très bien que la mère d'Échine ne faisait rien d'illégal, puisque Athènes avait fini par décider que le culte initiatique pratiqué par Ninos était autorisé. Or, ce culte était celui que proposait la mère d'Échine. Il n'y avait donc rien à redire contre elle, sauf que ce genre de culte n'était pas très digne. Démosthène, en le décrivant avec précision, veut montrer à quel point ces cérémonies étaient grotesques. C'est tout bénéfice pour nous. Nous pouvons nous faire une idée de cette forme populaire de religion. Démosthène insiste. Échine était d'un milieu pauvre et adepte d'un culte absurde rendu à un dieu étranger, le dieu asiatique Sabasios. un équivalent oriental de Dionysos.
Mais toi, l'homme fier qui crache sur tout le monde, compare à mon destin celui qui fut le tien. Enfant, tu as été élevé dans une grande indigence, assistant ton père dans son école, broyant le noir à écrire, épongeant les bancs, balayant la salle des esclaves amenant les élèves, dans un rôle de serviteur, pas d'enfant libre. Adulte, tu faisais le lecteur pour ta mère quand elle se livrait à des initiations, et tu offrais tes bons offices à toutes ses besognes. Tu habillais de peau, tu arrosais de vin, tu purifiais les impétrants, tu les barbouillais de boue et de son, tu les relevais après la purification et tu leur ordonnais de dire « J'ai échappé au mal, j'ai trouvé le meilleur ». Fier que jamais personne n'ait poussé des youyous comme toi. C'est mon avis à moi aussi. Croyez bien qu'avec la voix qu'il a, ces youyous sont éclatants. Le jour, tu conduisais par les rues ces beaux cortèges couronnés de fenouilles et de peupliers blancs. Tu comprimais dans tes mains des serpents joufflus et tu les brandissais au-dessus de ta tête en criant « Evoé, Saboé !» Tu dansais sur l'air, US, Athès. Les petites vieilles t'appelaient président, guide suprême, portelière ou autre. Et tu touchais pour salaire des mouillettes, des torsades et des galettes. Ah oui, vraiment, qui dans ces conditions ne se serait pas senti fier de son destin ?
Le dieu Samasios était évoqué rituellement par le jeune Échine avec des cris de délire. Evoé, Saboé. Ce dieu était une sorte de doublon de Dionysos. Il venait de Phrygie, en Asie mineure. Il était lui aussi un dieu du vin, de l'ivresse. Chez Aristophane, deux esclaves qui sont censés veiller toute une nuit sur la maison de leur maître avouent que le sommeil les a surpris. Ils se plaignent du poids que le dieu Sabazios a fait peser sur leurs paupières. Ils veulent simplement dire qu'ils ont trop bu.
Un sommeil me saisit du genre tiré de Sabazios.
Alors tu fais paître le même Sabazios que moi, car comme un guerrier perse vient d'agresser mes paupières un sommeil à faire flancher les têtes.
France Inter. Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Elder's daughters never miss their chances to learn the hardest lessons again and again. Carrying my mother's torment, I think I'm where the bloodline ends. I'm never.
Another soldier. À propos du procès de Socrate, Pierre Judet de Lacombe parle de l'accueil des dieux étrangers à Athènes.
Athéniens, juges, vous n'ignorez pas combien je suis dévoué à la cité aussi. Sans doute n'avez-vous pas été étonnés que j'ai cru devoir porter devant l'Hébé et devant vous-même une accusation contre Socrate. Oui, Socrate, qui n'a aucun respect pour les lois, on n'a pas davantage pour les dieux de nos pères. Il se moque de la religion de l'État et amène de l'étranger des dieux nouveaux, comme si les dieux étaient interchangeables et pouvaient, de même que les modes des femmes, venir d'Orient.
En accusant Socrate d'introduire des divinités nouvelles à Athènes, l'accusateur, le poète Mélétos, rabaisse Socrate. Il le met au niveau de cette religion qui avait des détracteurs. Religion de bas étage, pas sérieuse et vulgaire. Une religion des faubourgs, caricature de la vraie et noble religion. Pour faire entendre son mépris, l'accusateur joue sur les mots. Il se croit habile. Quand il parle des dieux officiels que Socrate ne reconnaîtrait pas, il emploie le mot consacré « théos » qui a donné « théologie ». C'est le mot habituel pour désigner les grands dieux officiels, les dieux qui comptent. Quand il parle des divinités que Socrate aurait introduites, il emploie un autre mot « puissance des démons »,« daimonia », un terme vague. Ce que les Grecs anciens appelés les démons, daimones. Ce n'étaient pas du tout les démons du christianisme, les esprits mauvais et les diables, qui d'après l'Église nous tentent et nous persécutent dans les enfers. À l'époque de Platon, les démons pouvaient être positifs. Les démons étaient des divinités intermédiaires, pas toujours définies, inférieures aux grands dieux, les théoi. Ces divinités inférieures intervenaient dans nos vies. Mélétos, l'accusateur, devait avoir entendu parler Socrate. Quand Socrate dit qu'une divinité entre en communication avec lui pour le dissuader de faire ceci ou cela, il parle d'un démon, d'une divinité familière qui n'a pas de nom, alors que tous les dieux officiels, les théoi, ont un nom et une histoire bien définie. L'accusateur s'est cru malin en parlant des démons, ou plutôt des puissances démoniques, que Socrate aurait introduites à Athènes. Mais Socrate, d'après ce que raconte Platon, pourra facilement le réfuter. C'est une question de logique. Si on dit, avec l'accusateur, que Socrate a introduit à Athènes des démons, au sens ancien, on doit admettre que Socrate croyait en l'existence de ces démons, que l'on définit habituellement comme des êtres divins intermédiaires, plus faibles, moins grands que les dieux officiels. Or, toujours selon la tradition, ces démons, ces divinités inférieures sont les fils des dieux et d'êtres féminins inférieurs aux dieux, par exemple les nymphes. En introduisant des démons, à supposer qu'il l'ait fait, Socrate aurait nécessairement montré qu'il croit aux dieux, puisque les démons en sont les fils. L'accusateur s'est donc contredit, il est réfuté. Socrate, en parlant de son démon, affirme bien qu'il croit en l'existence des dieux.
Si par ailleurs les démons sont des enfants des dieux, des bâtards nés des nymphes ou d'autres personnages comme le rapporte la tradition, quel être humain estimerait qu'il existe des enfants des dieux, mais pas des dieux? En effet, ce serait aussi absurde que de soutenir cette opinion. Les mulets sont des rejetons des chevaux et des ânes, mais il n'y a pas de chevaux et pas d'ânes. Non, Mélétos, il n'est pas possible que tu n'aies pas eu l'intention de nous mettre à l'épreuve en rédigeant l'action que tu as intentée. À moins que tu te sois trouvé dans l'embarras lorsqu'il s'est agi de trouver un chef d'accusation véritable à lancer contre moi.
L'accusateur Mélétos ne peut rien répondre. Bouche bée, il est gros Jean, comme devant. Un autre procès pour impiété a été célèbre à Athènes. Il ne s'agissait pas de philosophie. Mais ce procès rappelle l'accusation et la menace qui ont pesé contre Socrate. Les termes de l'accusation sont proches. Il s'agit du procès d'une femme, 50 ou 60 ans après le procès de Socrate. Cette femme était une escort girl, ou plutôt une geisha, extrêmement belle et extrêmement chère, et extrêmement riche. On dit qu'elle a été le modèle du sculpteur Praxitèle pour son Aphrodite, la fameuse Vénus de Cnide. Elle s'appelait Phryné, nom bizarre pour une telle beauté. Phryné veut dire crapaud, mais bon. Cette Phryné, qui était grecque, avait constitué autour d'elle une sorte de secte qui vénérait un obscur dieu étranger, un dieu nommé Isodaïtès, venu du nord, de Thrace. La malveillance concernant ce dieu ne manquait pas. On disait qu'il rassemblait des femmes malhonnêtes et la lie du peuple. Or un jour, un amant, sans doute éconduit, attaque Phryné en justice. Il s'appelait Eutyas. Son accusation rappelle celle qu'a dû affronter Socrate. On a la conclusion de son discours.
Je vous ai donc montré l'impiété de Phryné. Elle s'est livrée à d'impudentes débauches. Elle a introduit une divinité nouvelle. Elle a réuni des groupes religieux illégaux d'hommes et de femmes.
Phryné avait un défenseur, Hypéride, qui était son amant encore en cours. Il plaide, mais il est désespéré. Voyant que ses arguments ne portaient pas et que la condamnation à mort de son amante s'approchait, il prend alors une décision radicale qui va sauver Phryné.
Hypéride, l'avocat de Phryné, n'ayant pas réussi à convaincre les juges et voyant qu'ils allaient la condamner, décida de la mettre bien en vue, déchira sa petite tunique et dévoila sa poitrine à tout le monde. Et à la fin de son discours, il tint des arguments si pathétiques en la regardant que les juges furent soudain pris d'une frayeur superstitieuse vis-à-vis d'une servante et prêtresse d'Aphrodite. Ils se laissèrent gagner par la pitié et s'abstinrent de la mettre à mort.
La nudité révélée de Phryné la sauve. Socrate, le tout moche, n'avait pas pour lui les arguments de Phryné. Mais, d'une certaine manière, il fait comme Phryné devant ses juges. Il ne prononce pas un discours compliqué, travaillé à l'avance. Il va se montrer tel quel, tel qu'il est, et les juges jugeront. L'argument principal qu'il peut faire valoir contre ses accusateurs, qui n'ont rien dit de vrai, c'est ce qu'il est, sa vie, ses habitudes, ses fréquentations. Pas besoin d'un discours préparé et virtuose, comme celui qu'ont essayé de produire les accusateurs. L'improvisation suffit. C'est ainsi que Platon, qui a écrit une plaidoirie de Socrate, une apologie, plusieurs années après le procès et la mort de Socrate, présente ce que Socrate aurait dit pour sa défense.
Ces gens-là n'ont donc, je le répète, rien dit de vrai, ou presque, tandis que de ma bouche, c'est la vérité, toute la vérité, que vous entendrez sortir. Non, bien sûr, Athéniens, ce ne sont pas, par Zeus, des discours élégamment tournés, comme les leurs, ni même des discours qu'embellissent des expressions et des termes choisis que vous allez entendre, mais des choses dites à l'improviste dans les termes qui me viendront à l'esprit. En effet, tout ce que j'ai à dire est conforme à la justice, j'en suis sûr. Que nul d'entre vous ne s'attende à ce que je parle autrement. Il serait par trop malséant, Athénien, qu'un homme de mon âge montât à la tribune pour vous adresser des propos qu'il aurait modelés comme l'aurait fait un jeune homme.
Socrate, qui a 70 ans, dit qu'il parlera vrai, authentique. Il s'efforce alors de montrer que ses accusateurs, avec à leur tête le jeune poète Mélétos, se sont enfermés dans la fiction. Ils ne touchent pas le réel. En attaquant Socrate comme ils l'ont fait, ils ne font qu'imiter un autre poète, Aristophane le comique, qui plus de 20 ans auparavant a dans sa pièce « L'énuée » inventé méchamment un Socrate fictif et grotesque qui n'a rien à voir avec le Socrate réel. C'est ce Socrate de comédie qu'en fait attaquent les accusateurs. Aristophane a accompli un tour de force. Faire croire pendant longtemps à une foule d'Athéniens que son personnage de farce était le vrai Socrate. L'accusation d'impiété qui est à l'origine du procès découle de cette confusion. À cause d'un spectacle, la fiction s'est dans la tête des Athéniens substituée à la réalité.
Socrate a la prétention de remplacer le culte de nos dieux traditionnels par le culte de nouveaux démons dont il refuse absolument de préciser l'apparence, parce qu'il se montre toujours plus ambitieux à détruire qu'à construire. Mon âme est affligée, mais je sais qu'il est de mon devoir de requérir la peine de mort contre Socrate.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Ne chantez pas la mort, c'est un sujet morbide. Le mot seul jette un froid aussitôt qu'il est dit. Les gens du show business vous prédiront le bide. C'est un sujet tabou pour poète maudit.
Je la chante et dès lors, miracle des voyelles, il semble que la mort est la sœur de l'amour. La mort qui nous attend et l'amour qu'on appelle, et si lui ne vient pas, elle viendra toujours. La mort, la mort. La mienne n'aura pas, comme dans le Larousse, un squelette, un linceul, dans la main, une faux. Mes filles de 20 ans, à chevelure rousse, en voile de mariée, elle aura ce qu'il faut. La mort, la mort. Le temps, c'est le tic-tac monstrueux de la montre. La mort, c'est l'infini dans son éternité. La mort.
Pierre Judet de Lacombe parle de la science de Socrate qui consiste à savoir qu'il ne sait rien.
Dans sa plaidoirie, le Socrate imaginé par Platon fait une description très précise de la comédie d'Aristophane où on voit suspendu en l'air dans un panier, car c'est plus pratique pour analyser le mouvement des astres, un Socrate double. Le Socrate d'Aristophane est à la fois un scientifique qui s'intéresse aux sciences de la nature, du ciel et de la terre, et une espèce de savant fourbe qui enseigne comment, par le langage, on peut renverser toutes les croyances les mieux établies, entre autres la croyance dans les dieux.
Il n'en reste pas moins que mes premiers accusateurs,
Socrate vise en fait Aristophane,
sont encore plus redoutables, athéniens. Car par l'influence qu'ils ont exercée sur plusieurs d'entre vous depuis que vous êtes enfants, ils vous ont convaincu en lançant contre moi l'accusation suivante, qui ne présente pas un soupçon de vérité. Il existe un certain Socrate, un savant, un penseur, qui s'intéresse aux choses qui se trouvent en l'air, qui mène ses recherches sur tout ce qui se trouve sous la terre et qui, de l'argument le plus faible, fait l'argument le plus fort. C'est là, athéniens, la rumeur qu'ils ont accréditée. Et voilà les accusateurs que j'ai à craindre. En effet, ceux qui leur prêtent l'oreille estiment que les gens qui s'adonnent aux recherches qui viennent d'être mentionnées ne reconnaissent pas les dieux.
Aristophane a su imposer une image fausse de Socrate. Cela indique la puissance à Athènes d'une œuvre de fiction qui peut faire des ravages en diffusant des fake news. Socrate, pas celui d'Aristophane, mais celui de Platon, celui qui est censé avoir prononcé cette plaidoirie, va démolir cette image fausse en lui opposant la vérité. Mais Socrate n'est pas naïf. Qui va le croire, lui, plutôt qu'Aristophane et ceux qui l'ont sans cesse répété? Qui va garantir la vérité de ce qu'il dit? Il faut que ce soit un dieu. Et Socrate mentionne le dieu le plus véridique qui soit, Apollon. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'il ne reconnaît pas les dieux. Socrate raconte que la Pythie de Delphes a fait un oracle le concernant. Son ami Chéréphon, un démocrate convaincu, avait dû quitter Athènes à cause de l'arrivée des 30 tyrans. Quand il a pu revenir, il rapportait un oracle du dieu.
Je produirai devant vous comme témoin le dieu de Delphes. Vous connaissez sûrement Chéréphon, je suppose. Ce fut pour moi un ami d'enfance et pour vous un ami du peuple. Aussi dut-il, il n'y a pas si longtemps, partir en exil et en revint-il avec vous. Vous savez bien aussi quelle sorte d'individu était Chéréphon, quelle impétuosité il mettait dans tout ce qu'il entreprenait. En particulier, un jour qu'il s'était rendu à Delphes, il osa consulter l'oracle pour lui demander, et n'allez pas, je le répète, m'interrompre par vos cris, citoyens, si en fait il pouvait exister quelqu'un de plus savant que moi. Or, la Pythie répondit qu'il n'y avait personne de plus savant que moi, Socrate. Et sur ce point, c'est son frère qui portera témoignage devant vous, puisque Chéréphon est mort.
Cette réponse du dieu est pour Socrate incompréhensible. Le dieu sait tout et ne peut pas mentir. Il faut donc le croire. Or, c'est impossible. Socrate sait très bien qu'il n'est pas savant. La seule chose qu'il sache avec certitude, c'est qu'il est ignorant. Il ne possède aucun savoir certain. Pour comprendre ce que le dieu a voulu dire, il faut enquêter. Socrate s'en va donc par la ville et interroge ceux qui, assurément, sont plus savants que lui.
J'allais donc trouver un de ceux qui passent pour être des savants, en pensant que là, plus que partout, je pourrais réfuter la parole oraculaire et faire savoir ceci à l'oracle. Cet individu-là est plus savant que moi, alors que toi, tu as déclaré que c'était moi qui l'étais.
C'est incroyable. Socrate entreprend de réfuter le dieu. Comme il passe son temps à réfuter les gens dans la ville, il ne pense pas que le dieu a menti, mais il sait que, comme d'habitude à Delphes, Apollon n'a pas été clair. Il a parlé par énigme et a certainement voulu dire autre chose que ce qu'il semble dire. Pour connaître le sens de cette énigme divine, Socrate ne dispose que d'un moyen humain, à savoir sa propre méthode de recherche de la vérité, sa méthode de questionnement. Interroger ce qu'il rencontre et tester par des questions très exigeantes et logiques la qualité de leur savoir. Socrate se met en chemin. Il interroge d'abord un homme politique connu, puis un autre, qui passait pour très savant, et découvre qu'ils ne peuvent rien dire de sûr. Puis, il va voir des poètes. Ces poètes sont savants dans leur technique, dans leur art de faire des vers, de travailler le langage. Mais en fait, ils n'ont aucune idée précise de ce qu'ils disent. Ils sont emportés par leur génie naturel et par une inspiration divine. Puis, il va voir des artisans qui sont très savants dans leur domaine, mais totalement ignorants dès qu'il s'agit de questions générales. Socrate découvre donc que l'oracle n'a pas tort. Il est le plus savant des hommes, car lui, il sait qu'il est ignorant.
Citoyen, il y a bien des chances pour que le vrai savant, ce soit le dieu, et que par cet oracle, il ait voulu dire la chose suivante. Le savoir que possède l'homme présente peu de valeur, et peut-être même aucune. Et s'il a parlé de Socrate qui est ici devant vous, c'est probablement que, me prenant pour exemple, il a utilisé mon nom comme pour dire, parmi vous, humains, celui-là est le plus savant qui, comme l'a fait Socrate, a reconnu que réellement, il ne vaut rien face au savoir.
Socrate, le savant ignorant, se sent investi d'une mission divine. Il commence à les vérifier s'il n'y a pas quand même de vrais savants chez les gens d'Athènes et chez les étrangers. Par son art du questionnement serré, tenace, il découvre que non. Et évidemment, Cela met en colère beaucoup de monde. Il n'y a que les jeunes, ceux qui ont du temps libre, les jeunes des milieux riches, que cela amuse. Ils adorent voir Socrate réfuter des notables. Et ils se mettent eux aussi à réfuter les adultes. Cela aussi énerve beaucoup de monde. C'est pour cela qu'on a dit que Socrate corrompait la jeunesse. Socrate a donc expliqué pourquoi on l'accuse. Affronter cette accusation, ce n'est pas seulement réfuter des ignorants, c'est affronter une menace de mort. Comment Socrate va-t-il s'en tirer? Il va nous emmener très loin.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Titouan Labarre et le mixage par Paul Percheron. La semaine prochaine, pour les vacances d'hiver, nous allons retrouver les devins pendant deux épisodes avec la Sibylle, puis les mamelles de Tirésias. Bonne journée sur France Inter.